Biodiversité sur RCN. Pauline Dillon-Schneider.
Bonjour et bienvenue dans l'émission Biodiversité sur RCN. Aujourd'hui, nous allons parler de l'enseigne Chausse-Pied avec à mes côtés le gérant de cette enseigne, Monsieur Hustic. Mais avant ça, nous allons retourner au Salon de l'Environnement qui s'est déroulé samedi 16 mars à Toul, où j'ai pu parler avec certains des conférenciers et exposants.
Ben moi, je suis professeur à l'Université de Lorraine. J'enseigne dans une école qui s'appelle, entre autres, j'enseigne dans différentes écoles, mais différents endroits, mais j'enseigne notamment à l'école de géologie de Nancy. Et je fais ma recherche au laboratoire Géosources. Et en même temps, je suis directeur scientifique du LABEX Ressources 21, qui est un regroupement de laboratoires qui travaille sur la chaîne de valeur des métaux. Donc, la géologie jusqu'aux produits semi-finis, en passant par les processus hydrométallurgiques, de concentration physique. On intègre également les aspects économiques et les aspects environnementaux. Et mes sujets de recherche sont l'hydrométallurgie. Donc j'essaie de voir comment est-ce qu'on peut extraire des métaux à partir de ressources primaires, donc les mines, ou à partir de ressources secondaires, les déchets. Et je dirais qu'aujourd'hui, 80% de mon activité, c'est sur les batteries lithium-ion, comment recycler les batteries lithium-ion. Et je m'intéresse également, notamment dans le cadre d'une société, une start-up qu'on vient de créer, qui s'appelle WeMet, à l'extraction du cuivre contenu dans les déchets électroniques.
D'accord.
De manière générale.
Donc, c'était le sujet de votre conférence, du coup.
Voilà, bah oui, c'est ça.
Ok, parfait, merci beaucoup.
Alors du coup, je suis Laurie Muller, je suis l'ingénieure responsable de la Meurthe-et-Moselle au Centre National de la Propriété Forestière. Donc, c'est un établissement public de l'État qui est en charge d'accompagner et de développer la gestion durable en forêt privée. Il faut savoir que du coup, en France, 75% de la forêt est privée. En Meurthe-et-Moselle, c'est plutôt autour de 40%. On représente du coup donc, la forêt privée qui en Meurthe-et-Moselle, représente 33 000 propriétaires privés. Donc on est une petite équipe de 3 personnes en Meurthe-et-Moselle pour justement accompagner et faire du conseil en fait, auprès de ces propriétaires. Donc c'est des services qui sont gratuits. Tout le monde peut faire appel au CNPF pour du coup, lorsqu'ils se questionnent en fait, sur leur propriété, de savoir comment gérer leur forêt. Est-ce qu'ils préfèrent plutôt vendre leur propriété, quels sont éventuellement les avantages fiscaux qui peuvent être rattachés, vers qui se tourner pour gérer leur forêt, pour par exemple s'il faut couper des arbres ou autre. Et donc voilà, nous on est vraiment l'organisme de conseil pour ces propriétaires privés de manière générale.
D'accord, merci.
Alors donc moi je suis à l'EIGM, je suis étudiant à l'EIGM et on participe aux 24 heures de Stan. C'est une course où on va pousser une voiture sans moteur le plus de tours possible autour de la place Carnot à Nancy. Et donc moi je suis responsable de la mécanique de la voiture de notre école.
Et c'est quand les 24 heures de
Stan? Il me semble que c'est le 18 et le 19 mai, je vais vérifier.
Okay. Ça dure des écoles, c'est ça ?
Voilà, c'est ça. C'est toutes les écoles de Nancy qui participent à cet événement. Et donc, c'est la compétition de l'école qui fait le plus de tours avec une voiture.
Ok, parfait.
Moi, ouais. Actuellement, je suis retraité depuis un an. C'est une situation qui va se dire depuis un certain temps. Et en fait, j'étais professeur à l'Université d'Orléans pendant 25 ans. Et avant, j'étais ingénieur au BRGM. Ça veut dire que mon travail, ce sont les ressources minérales. Tout ce qui est ressources minérales, les mines, les carrières en France et à l'étranger. Donc c'est surtout ça. Et là, donc, c'est Cédric Demery qui m'avait demandé de faire un petit état des lieux, j'ai envie de dire, sur les exploitations dans le Grand Est. Qu'est-ce qu'on avait comme carrière et comme activité aujourd'hui de cet ordre-là. Vous avez beaucoup de choses d'ailleurs. Vous avez même la dernière mine souterraine de France à Varangéville en Seine. Et donc les potentialités, parce que là, actuellement, on est quand même en train d'essayer d'améliorer quand même l'autonomie de la France en matière première minérale. Toutes les régions auront un rôle à jouer, mais vous aussi, vous êtes bien pourvus en ressources minérales. Certaines sont déjà exploitées, mais d'autres pourraient l'être. Après, c'est des décisions industrielles, politiques, etc. Donc, c'est pas simple. Donc, voilà. Et donc, moi, je participe à tout ça avec mes compétences, en faisant des conférences, en faisant des formations, en travaillant avec des organismes qui sont là, comme MIF, par exemple, Minéraux Industriels de France, avec lesquels je collabore régulièrement.
Okay, donc voilà. De travailler au final
Je travaille, disons que j'occupe ma retraite le plus efficacement et le plus utilement possible, du moins j'essaye. Donc, c'est mes compétences, donc autant Puis moi, je suis d'une génération qui a vu les mines en activité, qui a vu tout ce qui s'est produit quand même pendant de très nombreuses décennies. Vous l'avez pas connu, mais moi, je les ai connus à l'époque quand on était étudiant. On allait visiter des mines partout, on allait partout en France. Donc c'est une époque qui est révolue, mais bon, ça peut peut-être revenir, parce que là on est tellement dépendant de l'étranger qu'on a vu pendant le Covid ça posait des problèmes, qu'on ne fabrique plus rien en France, qu'on n'ait plus d'approvisionnement. Ça risque de se reproduire, et avec des conséquences qui seront peut-être dramatiques. Hein. Donc, c'est pour ça que les responsables politiques ont quand même senti qu'il y avait un problème. Bon, c'est en train de bouger maintenant. L'avenir, ça dépendra de l'accueil évidemment sociétal, ça dépendra des décisions politiques, donc ça, le reste, je ne maîtrise pas. Tout ce que je peux faire, moi, j'informe. Objectivement, je ne dis pas si c'est bien ou c'est mal. La réalité, c'est ça. Après, on en tirera les conséquences, du moins j'espère.
Merci.
Voilà, c'est tout.
Bonjour, donc Hubert Duru, je suis le président de l'API Est. Donc, nous sommes un syndicat qui est basé à Francheville, à côté de Toul, et on réunit 350 adhérents à peu près. Ça va de une ruche à 200 ruches. Et donc, c'est des apiculteurs locaux qui font du miel local. Et moi, j'incite tous les gens, vu les polémiques récentes, à acheter du miel chez eux, quoi. Il ne faut pas hésiter, et c'est du miel qui n'a pas été chauffé, qui a été bien extrait, il n'y a aucun souci avec.
D'accord.
Alors, maintenant, effectivement, sur notre stand, on voit des affiches sur le frelon asiatique, donc c'est un nouveau, malheureusement, c'est un nouveau prédateur qui arrive et qui va nous causer bien des soucis, et qui va causer bien des soucis aux petits ruchers. Okay. Les ruchers de 4 à 5 ruches risquent de disparaître, quoi. Parce qu'ils attaquent les ruches, ils stressent les abeilles. Donc c'est pour ça que là, au printemps, et c'est la période, il ne faut pas hésiter à se rapprocher des mairies, à aller regarder sur Internet le type de piège qu'on peut poser chez soi, et lever les yeux dans son habitat. Parce qu'en fait, le frelon asiatique, il est presque, on peut le qualifier de citadin. Il est là où est la bouffe. Hein. Et donc, il est présent là. Donc, si on peut capturer une reine, et ben une reine piégée, une reine éliminée, c'est un nid de moins. Et un nid de moins, c'est 11 kilos d'insectes non consommés. Un nid de frelon, c'est 11 kilos à l'année, voire davantage.
Ok, merci.
Voilà, je vous en prie.
Jusqu'à 12h30, biodiversité sur RCN.
Pouvez-vous vous présenter ?
Donc, je m'appelle Stéphane, j'ai 32 ans, je suis originaire de Nancy et aujourd'hui donc, je suis cordonnier sur Nancy en proposant donc, des services divers et variés, qui aussi bien donc, de la cordonnerie traditionnelle mais aussi moderne en rénovant les sneakers notamment.
Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre parcours ?
Alors moi j'ai un parcours dans le sens classique par rapport à... J'ai fait des études en alternance jusqu'au master et qui m'ont permis après de pouvoir avoir des postes à responsabilité sur notamment donc, dans le recrutement où j'ai eu la responsabilité d'agence de recrutement et d'intérim. Et c'est vrai qu'après 4-5 années donc, dans ce secteur, j'avais besoin d'entreprendre et de travailler de mes mains. Et je me suis posé la question de... quoi faire, et c'est vrai que je me suis tourné vers la cordonnerie.
D'accord. Et comment avez-vous la volonté de créer cette enseigne ? Parce qu'elle est quand même atypique.
Mon constat, c'était tout simplement que la cordonnerie actuelle était, on va dire, était bien développée, mais n'était pas adaptée à la réalité du marché. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde a des baskets, par exemple. Et c'est vrai que les cordonniers, certaines cordonneries répare pas les baskets, n'apporte pas de solution pour les réparer. Et donc c'est vrai que moi, il était important pour moi de proposer ce service en complément de la cordonnerie traditionnelle.
Et est-ce que ce projet est né d'une envie de participer à la transition écologique dans le sens vraiment axé sur le côté recyclé et pas jeter tout simplement
Ouais, c'est vrai que ça c'est aussi d'avoir un impact dans ce sens-là, c'est quelque chose d'intéressant. Et c'est aussi quelque chose de valorisant, Parce que bon, aujourd'hui, on voit que des gens, au lieu d'acheter une paire, vont venir nous voir au préalable et demander si c'est réparable ou non. Et ça va permettre déjà d'amoindrir l'impact on va dire écologique en faisant réparer leur paire plutôt qu'en en rachetant une et en la jetant.
C'est vrai que ça peut un peu contrer le fast fashion en ce moment parce qu'on n'a pas de solution pour l'instant pour les baskets. Ça nous pousse forcément à consommer, toujours racheter.
C'est ça. Donc après, c'est vrai que le fast fashion avait fait beaucoup de mal dans les années 2000 du fait que les prix étaient quand même à bas coût. On voit qu'aujourd'hui, une paire de baskets, ça a bien augmenté. Et donc, ce qui fait que la paire de baskets, on va se poser peut-être la question de la réparer avant de l'acheter ou d'en acheter une nouvelle. Mais aussi, c'est parce qu'on n'avait peut-être pas les technologies ni les moyens, nous, je parle les cordonniers, pour réparer. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a, on va dire, des outils comme des cols qui sont adaptés à ces matières. Et on a aussi donc, des matériaux qui vont nous permettre de réparer principalement quasiment tout type de paire.
D'accord, en effet, on en parlera un peu plus tard. Et au niveau de la demande, vous en avez quand même beaucoup plus que pour de la cordonnerie classique ?
On va dire que la cordonnerie traditionnelle est quand même la dominante. Et en complément, on propose cette solution autour de la basket. Et aussi, c'est surtout les gens, au fur et à mesure, prennent conscience que c'est possible. On va mettre des photos sur les réseaux. Certains clients vont repartir de chez nous avec leurs baskets réparées, vont en parler autour d'eux. Ce qui fait que ça va amener de nouveaux clients qui ne savaient pas que la basket était réparable.
D'accord. Et pour le métier de cordonnier, comment on y accède ? Comment il y a des formations ou c'est
donc
ça prend sur le tas ?
Ouais, il y a plusieurs possibilités. Donc c'est vrai qu'on peut faire des formations, que ce soit classique, CAP, après avec un BTM. Par exemple, aujourd'hui, j'ai un apprenti en BTM cordonnerie. Mais moi, je suis parti sur donc, la formation pour adultes où j'ai été formé pendant 7 mois à Romans-sur-Isère. Donc Romans-sur-Isère, c'est la capitale de la chaussure et du cuir.
D'accord.
Voilà, donc dans le passé, c'était là-bas que beaucoup de chaussures étaient fabriquées. Notamment, on était principalement sur de la chaussure de luxe, mais de la chaussure française était principalement fabriquée dans cette ville, dans cette région. Et donc, j'étais me former là-bas donc, pendant 7 mois intensifs en atelier pour obtenir un CAP titre cordonnier. Voilà.
Et est-ce que vous travaillez d'autres objets que des chaussures ? D'autres objets en cuir, peut-être ?
Oui, c'est vrai que nous, on travaille... moi, ce que j'aime bien, c'est le fait que ça soit pluridisciplinaire, dans le sens où on va travailler aussi bien des chaussures, des sacs, des blousons... des fois, on va nous amener un harnais pour chien ou des bracelets de montres à réparer, des petites choses. Et donc, c'est vrai que ça nous permet que le quotidien ne se ressemble pas.
Oui, je vous pose beaucoup de questions parce que c'est vrai qu'on voit de moins en moins de cordonniers quand même.
Oui, c'est vrai. On est de moins en moins. Donc après, c'est vrai que c'est le marché qui a fait, la fast fashion a fait mal notamment aux cordonniers parce que c'est vrai que c'était des chaussures... à bas coût, le prix de la réparation, malheureusement, valait plus ou moins le prix de la chaussure à l'époque. Donc ça commence à s'inverser, où aujourd'hui, ça vaut plus le coup de réparer que de racheter une paire. Et puis, donc c'est vrai que donc là, les cordonniers, il y a beaucoup de départs à la retraite donc, sur ce marché. Et on est très peu en formation. Donc ce qui fait que y en a beaucoup qui ferment et il n'y a pas beaucoup de reprises, notamment.
Ah oui, il y a très peu de jeunes qui veulent faire ce métier.
J'ai envie de dire comme beaucoup de métiers de l'artisanat,
oui, c'est vrai.
Qui sont pas forcément mis en avant et où il faut peut-être prendre plus le temps ou apprendre à connaître ces métiers pour pouvoir s'y diriger.
D'accord. On va faire une petite pause musicale.
Okay.
On va écouter The Sound of Silence et après on parlera un peu plus précisément de votre enseigne et ce qu'on peut y trouver.
Ça marche, merci.
Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone,
the halo of a street lamp. I turn my collar to the cold and damp. When my eyes were stabbed by the flash of a neon light, split the night and touch the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one did disturb the sound of silence. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words like silent raindrops fell. Echo. And the people bowed and prayed to the neon god they made. And the sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, the tenement halls.
Jusqu'à 12h30, biodiversité sur RCN.
Donc on va revenir peut-être sur le budget. Donc vous avez dit que faire réparer des chaussures, soit basket ou cordonnerie classique, ça coûtait moins cher qu'en racheter.
Oui, c'est vrai que ça dépend aussi du prix de paire à l'achat, mais il y a aussi la valeur sentimentale, parce qu'il y a des gens qui vont des fois avoir des paires que peut-être qu'ils sont pas forcément payés très cher, mais ils sont bien dedans. Et donc pour eux, il est plus intéressant de les faire réparer au même prix, peut-être que leur prix d'achat, parce qu'au moins leurs pieds, ils sont bien dedans, plutôt que d'en racheter. Et donc aujourd'hui, on va dire qu'aller pour un tiers du prix d'une paire, on a la possibilité de les faire réparer. Après, bah forcément, plus on attend, plus on a de réparations à faire. Oui. C'est un peu comme voilà la mécanique avec les voitures, où s'il y a plein, on doit changer les pneus et faire plein de choses. Bah c'est un peu pareil pour les chaussures.
J'ai pu lire dans d'autres articles pour préparer cette émission que vous avez cœur à fixer des budgets justes pour que tout le monde ait accès à vos services.
Oui, bah donc c'est vrai que nous, on s'adapte aujourd'hui à la paire, au budget des gens. Alors après, bah forcément, il y a certains coûts qu'on ne peut pas diminuer, parce que bah, dans le sens où il y a quand même le temps de travail à être payé à juste valeur. Mais si des fois la personne, bah, voilà, on n'a pas le prix est peut-être trop important pour elle, bah, on va essayer de trouver une solution peut-être à moindre coût, qui ne sera pas forcément la meilleure, mais qui pourrait déjà permettre de faire durer sa paire de chaussures.
Et quels services proposez-vous ? Donc la réparation, mais aussi le nettoyage, parce que parfois certaines baskets, ils ont des tissus particuliers et c'est compliqué de les réparer, de les nettoyer.
Ouais, mal aujourd'hui. Tout à fait. Donc c'est vrai que nous, aujourd'hui, on répare les chaussures, on répare les baskets, mais on propose donc aussi une activité donc, de pressing à sneakers, ce qu'on appelle, donc, qui nous permet, donc, c'est le nettoyage et la rénovation des baskets, où on va donc nettoyer tout simplement la paire pour les gens, leur rendre le plus neuf possible, on va dire, avec donc on les rend imperméabilisés, donc la paire elle est repartie pour un petit moment, leur donner voilà, un second souffle pour pouvoir être de nouveau portée avec un bon style. Après, bah c'est vrai que là, pour ce qui est des matières des fois compliquées, on travaille donc au résultat, c'est-à-dire que on va facturer que si le résultat il est à la hauteur de nos attentes. Donc ce qui nous permet, nous, de bah voilà, parce qu'il y a des tâches qui malheureusement des fois sont malheureusement incrusté dans la matière.
Et comment on répare une basket ?
Alors déjà, c'est appréhender la réparation, savoir les matériaux, appréhender la matière sur laquelle on va travailler, et puis avoir les matériaux mis à disposition. Donc nous, on appelle ça par nos fournisseurs, mais on les appelle les crépins. Voilà. Et donc c'est ces fournisseurs-là qui nous proposent donc des matériaux adaptés à la basket. Et donc c'est vrai que là, de plus en plus de crépins nous proposent donc des semelles qui sont qui s'adaptent aux nouvelles paires de baskets. Voilà, donc de plus en plus, dans la logique, on pourra réparer les baskets aussi bien que les chaussures.
Parce que c'est tout nouveau, vous arrivez quand même à trouver les matériaux nécessaires pour les réparer ? À peu près à l'identique en tout cas ?
On essaye de s'y rapprocher au maximum. Moi, je sais que j'aime pas dénaturer l'origine de la chaussure ou de la basket en essayant de respecter ce qui a été fait au préalable. Après, des fois, malheureusement, le mal est fait, donc il faut trancher puis faire quelque chose de nouveau, quoi.
D'accord. Et qu'est-ce qu'on peut utiliser pour réparer ? C'est quoi ? C'est des morceaux de cuir, des morceaux de tissu, des colles spécifiques ?
C'est ça. Donc nous, on travaille principalement le cuir, qui est une matière quand même qui est assez robuste. Si je peux donner des conseils à certaines personnes, c'est d'acheter des chaussures en cuir. On voit que dans le temps, ça tient et ça se répare plus facilement que d'autres matières. Si on entretient le cuir, bien sûr. Mais voilà, et donc après, on va travailler aussi des colles et d'autres matériaux qui vont nous permettre de pouvoir proposer un service assez large.
Du coup, on va continuer sur les conseils. Comment on peut bien entretenir une basket ?
Alors, la chose principale, c'est notamment de les imperméabiliser. Mais on va dire qu'une bonne imperméabilisation, c'est toutes les deux semaines.
Ah oui.
Et donc souvent, les gens vont l'imperméabiliser à l'achat. Puis après, ils vont se dire, c'est bon, elles sont imperméabilisées. Puis deux mois après, ils vont les tâcher. Puis ils vont se dire, je comprends pas, je les ai imperméabilisées.
Exactement. Oui.
Mais alors qu'en fait, l'imperméabilisation, elle va tenir deux semaines. Donc ce qui voudrait dire que toutes les deux semaines, le conseil, c'est de les imperméabiliser. Et avant chaque imperméabilisation, de les nettoyer.
Oui.
C'est mieux que d'imperméabiliser sur que de la saleté. Et après, pour tout ce qui est cuir, c'est l'entretien, c'est nourrir le cuir, en prendre soin. Après, pas forcément cirer, mais juste le nourrir, ça leur fera déjà du bien pour garder la paire dans le temps.
Comment on nourrit du cuir ?
Donc on a différents produits qui sont proposés, que ce soit des crèmes, des huiles ou des graisses qui vont permettre au cuir de se nourrir, de se protéger aussi dans le temps par rapport aux craquelures, par rapport aux différents impacts qu'ils vont pouvoir subir. Et puis après, comme ça, ça va permettre à cette matière de durer et de pouvoir être réparable. Quoi. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous, moi, je répare des paires qui ont peut-être 25 ans. Quand la personne me dit que ça fait 25 ans qu'elle a cette paire, ça fait toujours plaisir de se dire que l'investissement, il en valait le coup. Quoi.
Mais même tout cuir, même les sacs à main, les ceintures, c'est le même procédé ?
C'est le même procédé, c'est vrai. Mais après, on voit que de plus en plus de nouvelles paires, le cuir n'est plus aussi qualitatif qu'il l'était à l'époque. Quoi.
Comment ça se fait ?
Le coût. C'est ça, je pense qu'il y a une optimisation des coûts. On va prendre peut-être un cuir peut-être un peu plus fin ou un tout petit peu moins de qualité. Et ce qui fait que on voit que les cuirs sont quand même bons, mais les cuirs d'époque, en général, ils sont encore là.
Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudrez nous dire sur votre boutique que j'aurais peut-être oublié d'évoquer ?
Donc nous, on a un atelier où les gens, on les accueille avec grand plaisir à nos différents horaires d'ouverture. Et qu'après, on est à l'écoute des besoins des personnes, mais surtout aussi en essayant de répondre au maximum à leurs demandes spécifiques, parce que c'est vrai que souvent, c'est des demandes particulières pour réparer. Et on s'adapte au maximum pour pouvoir proposer une solution adaptée. C'est vrai que c'est plutôt rare qu'une personne reparte avec un refus de réparation de ma part, dans le sens où on va essayer de trouver une solution, essayer de s'adapter. Des fois, je vais peut-être garder la paire à l'atelier, dire aux gens qu'il faut me laisser le temps de réflexion pour essayer de trouver une solution adaptée. Par exemple, ça, c'est des choses qu'on fait et qui permettent à ce que les personnes puissent faire réparer leur sac, leur blouson et autres.
Quelle est la demande la plus compliquée qu'on vous ait demandée ?
Compliquées, on va dire qu'elles peuvent l'être toutes. On a aussi des fois on a des choses qui ont une grande valeur, que ça soit sentimentale, parce que ça peut avoir appartenu à un grand-parent par exemple, ou des valeurs qui coûtent quand même assez cher pour tout ce qui est notamment maroquinerie, même chaussures. Donc la difficulté, ça va être moi je prends soin de chaque produit au même niveau. Et c'est surtout, bah, des fois, voilà, c'est quand on doit tout reconstruire. Mais c'est ça, c'est le challenge, c'est un défi. Donc, même si c'est difficile, moi, j'aime ça.
Peut-être un autre petit conseil pour terminer cette émission. En cas de grosse tâche, avec un produit qui tâche vraiment fort, quel est le premier réflexe à avoir?
Alors déjà,
avant de courir chez vous.
Ouais, déjà, ça peut être simple. C'est donc un chiffon humide. Et donc, essayer d'enlever cette tâche, mais sans trop frotter trop fort non plus, parce qu'on va pouvoir, on va incruster. Mais ça va être aussi surtout on peut faire, voilà, par exemple, prendre une petite brosse à dents, savon de Marseille et eau tiède, on vient brosser la paire. Par contre, quand on fait ça, on fait en général la totalité de la paire. On ne fait pas juste l'endroit où il y a la tâche, parce que c'est là que ça peut créer des auréoles ou ça peut accentuer la tâche. D'accord. Et le conseil que je peux donner, que je vois souvent malheureusement, c'est ne pas mettre à la machine à laver.
Ah, en effet.
Parce que là, ça fait l'effet inverse où la tâche, elle va s'incruster dans la matière.
Ah, d'accord.
Et donc là, après, bah, pour nous, on va dire que c'est beaucoup plus difficile de l'enlever. Mais après, c'est vrai que l'imperméabilisation, c'est de la prévention qui permettra de protéger la paire. Quoi.
D'accord. On peut vous retrouver où?
Donc nous, on est situé donc au 60 bis avenue du 20e Corps, dans le quartier Rive de Meurthe à Nancy.
D'accord.
Voilà, en face du Leclerc.
Vous avez des réseaux sociaux?
Et on nous retrouve sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, Instagram, au nom de Chausse-Pied, avec un S à pied, puisqu'on en a deux.
D'accord, parfait. Eh bien, merci.
Bah de rien, merci à vous.
Je vous remercie, chers auditeurs, de nous avoir accompagnés pendant cette émission. Et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Biodiversité. We'll be right back.